soir, le regroupement d'ONG dénommé Observatoire de la dépense publique ODEP a indiqué dans un rapport en septembre dernier que le budget nécessaire à l'organisation des élections de décembre en République démocratique du Congo n'avait pas encore entièrement été décaissé. L'ODEP parle de plus de 200 millions de dollars que la CENI attend recevoir du gouvernement congolais, mais la centrale électorale soutient de son côté qu'elle a à ce jour déjà reçu tout son budget. Quelle lecture faire du financement des élections en RDC? C'est la question de débat ce soir. Et pour en parler, nous serons avec Jérôme Bonso, président de la Ligue nationale pour des élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle, également coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées, AETA en sigle. Jérôme Bonso en studio de Radio Okapi, bonsoir.
Bonsoir cher ami Donna, bonsoir à tous les nombreux auditeurs de la Radio de la Paix.
Alain Lomanja, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes au téléphone et vous êtes analyste des questions électorales. Et enfin, Jeff Mudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Jeff Mudimbi, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir aussi à M. Jérôme et à M. Alain.
À tous, bienvenue à cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Le regroupement d'ONG dénommé Observatoire de la dépense publique, ODEP, a indiqué dans un rapport en septembre dernier que le budget nécessaire à l'organisation des élections de décembre en République démocratique du Congo n'avait pas encore entièrement été décaissé. L'ODEP parle de plus de 200 millions de dollars que la CENI attend recevoir du gouvernement congolais. Le président de ce regroupement d'ONG avait éclairé cette problématique dans l'émission Parole aux auditeurs de Radio Okapi il y a 10 jours. Florimond Mouteba s'exprimait au téléphone de Jira Lungembo.
À ces jours, les fonds reçus par donc la CENI sont un total de 652 millions de dollars. Les besoins exprimé pour l'année en cours était de 132 millions. Et dans ces 132 millions, 143 millions seulement ont été donc donnés à la CENI. Donc il reste 289 millions qu'il faut donner à la CENI pour boucler la première phase, c'est-à-dire les élections présidentielles et les élections
législatives et provinciales.
Exactement.
Alors, je voudrais 289 millions.
289 millions. Je voudrais souligner aussi une chose. Il faut savoir que d'ici le 23 décembre, il reste 55 jours ouvrables. Bon, on va me dire que la CENI travaille le samedi, le dimanche. Oui, mais ses partenaires ne travaillent pas le samedi, le dimanche. Ça, ni en Europe, ni en Asie, ni ici. Donc, il faut compter qu'il reste 55 jours. Et en 55 jours, il faudrait que la CENI puisse avoir ses moyens. Et avec ses moyens, la CENI doit pouvoir déployer tous les moyens logistiques qui vont permettre de faire les élections. Notez que on estime le nombre de bureaux de vote à 76 millions. On estime le nombre d'agents électoraux à 650 millions. On estime que s'il faut utiliser la machine à voter, il en faudra 105 000. Alors, il y a tout un plan de déploiement qui, pour l'instant, que ce soit pour la livraison à la CENI...
Donc ça a un coût.
Tout cela a un coût.
De son côté, la Commission électorale nationale indépendante soutient qu'elle ne connaît pas de problème de décaissement. La CENI s'était prononcée toujours au cours de cette même émission de Radio Okapi et avait déclaré avoir reçu à cette date tout son budget. Son rapporteur Jean-Pierre Kalamba le disait aussi à JR Lungembo.
À ce stade, la CENI vous dit qu'après même la tripartite entre CENI, CENSA et gouvernement, la question du financement ne se pose pas parce que les parties concernées, c'est-à-dire le gouvernement qui doit remettre l'argent à la CENI, se sont mis d'accord et ils ont démontré qu'à ce stade, après avoir décaissé les 400 millions qui concernaient la révision du fichier, c'est derrière nous. Et qu'actuellement, le gouvernement avait déjà versé à la CENI plus de 230 millions. Et la CENI vous dit, preuve matérielle, c'est le fait que tout le nécessaire pour l'organisation des élections à ce stade est déjà à la disposition de la CENI, quoique une partie flotte sur l'eau vers les points d'achèvement. C'est ainsi que, par exemple, la nuit d'aujourd'hui, la CENI a reçu déjà plus ou moins 40 conteneurs, 48 conteneurs, à partir de Matadi, c'est son président qui y était, qui doit être rentré à Kin déjà avec une vingtaine. Et que la partie de ce qui concerne la kit bureautique pour le bureau de vote, la totalité des 61 conteneurs sont à notre disposition, les isoloirs. Mais entrer, amener les Congolais dans les débats des 50 millions, parce que le gouvernement n'a pas comme mode d'opération la liquidation d'argent. Quand nous nous sommes arrivés à la CENI en 2013, nous avions trouvé que les bulletins de vote qui ont servi aux élections de 2011 n'étaient pas payés. Donc pour la CENI, ce qui importe et qui intéresse les Congolais n'est pas la liquidation en cash de l'argent, mais dès que le gouvernement peut prendre les engagements et que le matériel nécessaire lui est donné, la CENI considère que le gouvernement s'est acquitté de sa part, à elle de faire le reste.
Alors ce soir, nous accordons la parole à d'autres acteurs et nous allons essayer d'éclairer cette problématique. Jérôme Bonceau, président de la Ligue nationale pour des élections libres et transparentes, l'INEIT, également coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées, AETA. Alors vous, en tant que l'INEIT et AETA, que savez-vous de cette situation, Jérôme Bonceau? La CENI a déjà reçu tout le budget nécessaire aux élections de décembre en RDC ou pas?
Oui, merci cher ami Donna. Avant de répondre à votre question, mes salutations à longue distance au professeur Dieff et à notre compatriote Alain. Ici, nous nous trouvons devant la problématique du financement des élections. Et nous devons recourir au cadre légal. Allusion faite à la loi organique numéro 10/13 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Dans son article 2, deuxième paragraphe, stipule que la CENI est un organisme de droit public permanent et neutre, doté de la personnalité juridique. Article 6 de la même loi organique de la CENI jouit de l'autonomie administrative et financière. Elle dispose d'un budget propre sous forme de dotation. Celle-ci, c'est-à-dire la dotation, peut être complétée par des apports extérieurs. C'est ici où on fixe que la CENI n'est pas obligée de recourir à une dotation extérieure, mais la CENI pourrait formuler le souhait à travers, si c'est question de demander l'aide de l'assistance extérieure, à travers le gouvernement pour y arriver. Maintenant, la dotation comme telle du gouvernement, trois constats. Premier constat, le gouvernement de la République s'interdit de recourir au financement extérieur pour les élections, pour le financement des élections dans notre pays. Deuxième constat, les élections sont financées entièrement par le gouvernement de la République. Troisième constat, lenteur dans le processus de dotation de fonds à la trésorerie de la CENI par le gouvernement. Maintenant, nous devons voir quel est le facteur correctif. Le facteur correctif intervient dans le fait qu'il y a eu un deal qui a été signé entre gouvernement de la République et la CENI, c'est dit communément appelé plan de décaissement de fonds. Donc ce plan de décaissement de fonds que le gouvernement devait mettre dans la trésorerie de la CENI, étant donné que la CENI jouit de son autonomie financière et administrative. Question, quel est le taux ou la fréquence de décaissement de cet argent par le gouvernement? Donc, ce plan de décaissement, c'est pour financer quelle rubrique budgétaire? Parce que quand on finance les élections, on finance seulement les opérations électorales. Or, dans le budget de la CENI, ce budget comporte quatre rubriques. La première rubrique, c'est la rubrique des rémunérations. Dans les estimations budgétaires de 2016, cette rubrique CENI avait demandé 24 millions de dollars. Deuxième rubrique budgétaire de la CENI, c'est fonctionnement. En 2016, dans les estimations, CENI avait demandé 12 millions de dollars. Et troisième rubrique, la rubrique la plus importante, rubrique opération, où la CENI avait demandé 243 626 190 dollars. Et la dernière rubrique, c'est la rubrique investissement, où CENI avait demandé 4 millions, ce qui faisait, dans les estimations budgétaires de la CENI 2016, était de 283 626 109 €. Et maintenant, nous nous trouvons devant ce plan de décaissement, il y a un déficit de communication sur le plan de décaissement. Entre le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante, parce que on n'a pas d'informations suffisantes pour avoir une idée nette et claire et exacte sur le mouvement, les fréquences de décaissement de fonds. Et cela met à mal la transparence et la gouvernance électorale consensuelle et concertée. Donc ici, mieux vaut tard que jamais, il y a de cela 4 jours, je félicite le vice-président, la CENI à travers son vice-président, Noré Bazengis, qui a fait une déclaration à partir de Bukavu, qui venait de recevoir 56 millions de dollars de la part du gouvernement. Et là, nous avons vu bien vaut tard que jamais que le gouvernement a financé, et il a terminé pour dire, la CENI venant en possession de 70% de financement. Et nous nous posons la question, la CENI et le gouvernement, c'est comme le crocodile et le poisson qui dorment toujours dans le même fleuve ou dans la même rivière. Est-ce que nous pouvons douter ou bien accepter, dire amen, ce que la CENI dit est exact ou bien c'est faux? Mais c'est là la question. Mais nous pouvons vérifier, nous rendre compte, comme le professeur Mouteba vient de le dire, il nous reste 55 jours ouvrables pour le rendez-vous du 23 décembre 2018. Le rendez-vous, on doit organiser le scrutin combiné, la députation nationale, la députation provinciale et l'élection présidentielle.
Alors, à vous entendre, vous avouez publiquement que vous avez des difficultés à maîtriser les informations concernant ce financement. Vous ne savez pas exactement si le gouvernement a décaissé l'argent qu'il a toujours prétendu décaisser et si la CENI a reçu la totalité du budget dont il a besoin pour atteindre ses objectifs. Mais comment analysez-vous justement cette cacophonie dans la communication de ces montants? Y a-t-il quelque chose à cacher selon vous, que ce soit de la part du gouvernement ou de la CENI?
Peut-être qu'il n'y avait pas. Peut-être c'est le déficit. Pourquoi je parle de déficit de communication? Parce que toutefois, quand on a l'information, c'est aujourd'hui qu'on vient de voir le vice-président de la CENI à partir de Bukavu déclarer qu'il venait de recevoir 56 millions et qu'ils sont arrivés à 70%.
Alors qu'il y a 10 jours, dans l'émission dont nous venons d'écouter les extraits, la CENI disait n'avoir aucun problème de décaissement et de disposer de tous le budget.
Oui, parce que le décaissement, c'est tout un processus. Le décaissement, on n'appuie pas le doigt sur le bouton rouge et puis ça sort. Mais c'est un processus au fur et à mesure que les opérations continuent. Pour le financement qu'on va donner à la CENI, le 30%, ce n'est pas seulement pour les opérations électorales, c'est aussi pour les financements, pour les d'autres rubriques, rémunération, pour les rubriques fonctionnement, opérations et investissement. Et vous vous rendrez compte que la CENI, à son temps, le scrutin passé, les opérations passées, la CENI a encore des dettes des agents électoraux. Par exemple, le cas de Kassai Central et d'autres provinces. La CENI doit encore l'argent à ces agents-là qui avaient presté, qui avaient vendu leurs services. Et jusque-là, ils ne sont pas encore payés. Mais s'il arrivait que le 30% au fur et à mesure qu'on le débloque, que la CENI procède au paiement des arriérés, des agents électoraux et d'autres par d'autres fournisseurs, et ça constitue les 30%. Donc nous pouvons nous être réconfortés pour dire, avec le 30% qui reste, dans les 55 jours ouvrables, le gouvernement peut mettre la main à la poche, au trésor public, pour que le rendez-vous puisse être respecté. C'est là où nous disons que cette fois-ci, comme on tend maintenant vers ce que nous appelons l'esprit final électoral, et on tend faire le bout du tunnel électoral, on doit investir dans la communication, dans la transparence. Merci. C'est de là que nous voulons que la CENI et le gouvernement puissent s'engager pour respecter ce plan de décaissement qui n'y ait pas de dérapage ni de lenteur.
Merci Jérôme Bonson. Nous revenons à vous tout à l'heure pour éclairer toutes les autres problématiques qui sont liées à ce problème de financement. Jeff Mudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. C'est un plaisir de vous avoir ce soir en ligne. Vous êtes là?
Oui, je suis là.
Alors, quelle est la première analyse que vous faites de ces différentes communications des uns et des autres autour du financement des élections de décembre prochain en RDC?
Merci beaucoup, M. Donat, pour la question que vous venez d'imposer. D'entrée de jeu, je voudrais dire que nous sommes là en face des deux propositions contradictoires. C'est-à-dire, pour la CENI, on a déjà eu les nécessaires pour l'organisation des élections, et pour l'Observatoire, on n'a donné qu'une partie. Alors, la conséquence est laquelle ? Soit c'est la déclaration de l'Observatoire qui devient vrai, et les propositions de la CENI sont fausses, et vice-versa. Alors, quand nous nous mettons maintenant à analyser de près ce que nous connaissons, nous pouvons comprendre que déjà au niveau de la CENI, il y a un peu de contradiction. Contradiction en ce sens que, si réellement on affirme que la CENI a déjà reçu le nécessaire pour l'organisation des élections, et c'est ici que je voudrais quand même aussi saluer les analyses faites par M. Jérôme Bonson, on se rend compte que la CENI doit en principe, par rapport aux dépenses à réaliser, s'occuper de la rémunération du personnel, du fonctionnement des opérations ainsi que des investissements. Lorsque nous prenons seulement l'aspect rémunération, il s'avère que le dossier de traitement des contentieux dans les centres d'inscription n'a jamais été payé. Or, il fallait que la CENI paye aux contrôleurs techniques provinciaux, aux contrôleurs techniques territoriaux, ainsi qu'aux membres des centres d'inscription. Or, cela n'a jamais été fait. Qui plus est, lorsque la CENI prétend qu'elle a déjà eu tous les financements de la part du gouvernement, on peut aussi se poser la question, mais quand est-ce que ce financement a eu lieu? Parce que le financement de la CENI ne doit pas être considéré comme une opération ésotérique. On doit le savoir. On a donné tel montant, destiné à quoi? Mais tout cela n'est pas dit. Et c'est ça ce qui prouve à suffisance que la CENI apparaît comme une caisse à résonance ou une boîte d'enregistrement de la volonté du gouvernement. D'autant plus que, pour le gouvernement, bien entendu, et c'est connu de tous, les opérations électorales doivent être financées par le gouvernement parce que, estimant que c'est un problème de souveraineté. Alors qu'une autre opinion, notamment celle de l'opposition, estime que nous sommes incapables de financer et c'est ainsi que nous pouvons aussi tendre la main vers l'extérieur. Et ce qui est d'ailleurs correct parce que la CENI, dans son organisation, dans son fonctionnement, peut aussi dépendre des dotations extérieures. Donc, recourir à l'extérieur, ce n'est pas en contradiction avec la loi. Alors, le gouvernement ne veut pas d'un financement extérieur parce qu'il s'agit là d'un problème de souveraineté. Et quand la CENI dit que nous avons reçu tout le financement de la du gouvernement, la conséquence est laquelle? C'est que nous n'avons rien à attendre de l'extérieur. Donc, on peut déjà déduire que la CENI marche ou marche de pair avec le gouvernement ou dans la vision du gouvernement, ce qui pose effectivement un problème sérieux de, je ne parlerai pas en termes de neutralité, mais en termes d'impartialité de la CENI. Parce que j'estime que dans la neutralité, il y a absence de position, on n'est ni pour ni contre, mais alors que dans l'impartialité, il y a prise de position en faveur de ce qui est juste, en faveur de ce qui est correct, en faveur de ce qui... Voilà, à mon avis, quelques considérations que je peux développer au sujet de la question que vous m'avez posée.
Alors, professeur, il y a dans la question de financement des aspects très importants à regarder. La CENI, voilà, se défend d'avoir déjà évacué une bonne partie, appelé la partie consacrée à la réforme du fichier électoral. Vous avez entendu son rapporteur tout à l'heure dans l'extrait que nous avons tous entendu tout à l'heure. Mais il y a d'autres aspects du financement électoral qui concernent par exemple la logistique. Et dans la logistique, il y a des questions des transports très lourds, notamment des avions, des voitures, des véhicules et d'autres besoins. Il y a la rémunération, comme ça a été évoqué là. Quand vous faites votre analyse, Ayan Akoutan, la CENI qui dit avoir reçu tous les financements, même si, comme vous l'avez dit, il y a une espèce de contradiction. On ne peut pas avoir reçu à la fois tout le financement et recevoir encore une cinquantaine de millions il y a quelques jours seulement. Avez-vous l'impression que les aspects tels que la logistique, la rémunération, vous l'avez évoqué, la logistique et d'autres besoins de la CENI sont à ce jour maîtrisés?
Ok, merci beaucoup. Et ici, je pense que la CENI est l'institution seule qui détient la vérité. Mais il y a un adage français qui peut nous permettre de comprendre. Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Alors, si réellement la CENI affirme, quand même j'ai admiré les propos de M. Kalamba, le rapporteur, il a très bien dit que effectivement, donc ils sont au niveau de principe avec le gouvernement. Le principe, le gouvernement a accepté le financement total ou intégral des opérations électorales, mais ils ne sont pas au niveau de la liquidation. Donc, autrement dit, le principe est là, donc la bonne volonté, elle est là, mais la bonne volonté ne suffit pas. Nous devons voir les actions concrètes, parce que c'est vrai, on a accepté le principe de financer, mais à partir du moment où il n'y a pas de liquidité, comment est-ce que la CENI peut arriver au bout de ses charges ou au bout de toutes les missions qu'on attend d'elle? Alors, ce qui pose un problème sérieux, mais nous attendons, mais je dis encore une fois de plus, mentez, mentez, il en restera quelque chose. Si la CENI dit la vérité, et nous allons le constater, et le rendez-vous du 23 décembre ne sera pas raté, mais si elle est en train d'utiliser, donc de recourir au saupoudrage, assurément, le temps finira par la rattraper.
Jeff Moudimbi, je vous remercie à ce stade de votre analyse. Nous revenons à vous tout à l'heure. Alain Lomanja, analyste des questions électorales, pensez-vous qu'il y a un manque de clarté ou quelque chose à cacher dans ce dossier financement de la CENI?
Je voudrais commencer par noter que le thème d'aujourd'hui n'aurait peut-être pas été en discussion si on avait des signaux clairs de la part de la CENI et du gouvernement. Mais je pense qu'il y a une communication un peu approximative du fait qu'il y a un sérieux problème qui se pose et à la CENI et au gouvernement par rapport à la tenue des élections le 23 décembre prochain. Et le problème, c'est est-ce que à cause de l'argent, on peut se permettre un nouveau report des élections? Personne ne veut assumer la responsabilité d'un nouveau report parce que le gouvernement a décidé de refuser tout appui extérieur que nous avons par ailleurs par le passé accepté au cours des deux précédents processus électoraux. Et donc pour moi, l'imbroglio qu'on observe actuellement dans la communication de la CENI est symptomatique de quelques dysfonctionnements profonds. Je voudrais dire, bon, il n'y a pas de problème, s'ils ont l'argent, très bien, nous attendons les élections depuis deux ans, plus de deux ans, donc on sera heureux de les avoir le 23 décembre. Mais je constate quand même des dysfonctionnements importants. La première chose, et ça a déjà été souligné par les autres intervenants, c'est l'inaccessibilité des informations par rapport à l'évolution des décaissements des fonds. On dirait que le décaissement des fonds fait déjà partie du secret défense au niveau de la CENI et du gouvernement. Donc on a comme ça des informations éparses, mais on ne sait pas suivre la courbe de ces décaissements-là pour savoir si la CENI est au point avec les opérations qu'elle prévoit ou non. La deuxième chose, le deuxième dysfonctionnement que je constate personnellement, c'est que il y a une absence totale de contrôle de la gestion de la CENI par l'Assemblée nationale. Parce que la loi prévoit que la CENI fasse rapport de sa gestion à l'Assemblée nationale à la session de mars-juin de chaque année. Or, depuis que le CENI fonctionne, cet exercice-là n'est pas fait. Donc les députés ne savent pas comment le budget de la CENI est géré. On dépose seulement des volumineux documents et tous les présidents des assemblées qui se sont succédés n'ont jamais permis un débat sur ce budget-là en plénière. Ce qui fait que quand on n'a pas de contrôle de la gestion de la CENI, on ne peut pas arriver à voir clair sur ce qui se passe à l'intérieur. Et je peux dire qu'à cause de ce manque de contrôle, on assiste à une dilapidation regrettable de l'argent du contribuable congolais. Et je peux donner des exemples concrets pour essayer d'illustrer mon propos. Si vous prenez par exemple, en 2014, la CENI déclare dans son rapport qu'elle possède encore 6 540 kits d'enregistrement des électeurs achetés auprès des ETS. Et ces kits sont opérationnels. Mais en 2016, on achète 22 000 nouveaux kits de Gemalto qui sont incompatibles avec les kits des ETS. Donc, on déclare ce qui était opérationnel et on gaspille de l'argent comme ça pour acheter de nouveaux kits. Un autre exemple concret. Dans son rapport de 2016-2017, et ça c'est le journaliste allemand Jean-Michel Bott qui l'a dit dans un article, la CENI affirme posséder 393 véhicules, 604 motos et 94 hors-bord en bon état ou en très bon état. Mais la même CENI prévoit dans son nouveau budget 14 millions de dollars pour acheter de nouveaux véhicules, de nouvelles motos et de nouveaux hors-bord pour le déploiement. Donc il y a un double emploi qu'on ne peut pas expliquer si facilement. Et vous voyez, des cas comme ça, ça donne à penser, est-ce que les montants qu'ils déclarent au départ sont des montants réels ou bien c'est des choses qui sont bidonnées comme ça pour amener à des gestions très, très, très opaques.
Alors, Alain Lomanja, vous semblez avoir bien monitoré les statistiques concernant les dépenses de la CENI, mais lorsque l'ODEP dit que la CENI manque à peu près 300 millions de dollars à recevoir du gouvernement, qu'est-ce que vous en savez? Avez-vous des chiffres particulièrement au sujet de ce que la CENI aurait déjà reçu jusqu'ici et de ce qui lui manque ou ne lui manquerait pas?
Mais en fait, pour dire la vérité, il n'y a même pas de contradiction entre la CENI et l'ODEP. Ce que l'ODEP dit est une réalité. Et la réponse de la CENI que j'ai entendue de la part de M. Kalamba, c'est qu'on reconnaît là-bas qu'il n'y a pas eu décaissement de la totalité des fonds, mais on dit que les décaissements ne sont pas que de l'ordre du financier et que le gouvernement peut prendre des dispositions pour obtenir le matériel électoral ou les besoins de la CENI à crédit, ce qui lui permettra d'être à temps. Mais M. Kalamba ne peut pas dire et ne dit pas dans sa déclaration que la CENI a reçu tout l'argent. Et donc, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'à 2 mois des élections, le budget des opérations électorales n'est pas encore clôturé. Et ce qui est aussi certain, c'est que si cela continue au rythme des déplacements actuels, la CENI risque d'être prise en contradiction avec ses propres déclarations. Et dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que la CENI, qui tient un langage diplomatique maintenant pour couvrir le gouvernement, qu'elle se sente aussi totalement responsable d'un éventuel nouveau report des élections parce qu'elle n'a pas voulu dire la vérité au peuple congolais.
Merci Alain Lomanja, nous reviendrons à vous pour un deuxième moment d'échange. Jérôme Bonso, à vous la parole, mais avant de la reprendre complètement, écoutons plutôt cette réflexion qui nous vient de Kananga.
Je m'appelle Sébastien Gaillé, depuis Kananga, au Kasaï central. Depuis le début du procès électoral, la CENI n'a jamais eu le courage de dire à visage découvert les insuffisances qu'elle constate en ce qui concerne le financement complet des élections du 23 décembre. Et pour tromper la vigilance du peuple congolais, les animateurs de cet organe d'appui à la démocratie et leur chef de file, le Kornanga, sont en train de se comporter comme si tout allait bon train, alors qu'en réalité, la CENI connaît d'énormes difficultés financières. Et j'en prends pour preuve cette énorme difficulté qu'elle a connue pour payer ne serait-ce que les agents recrutés pendant l'étape d'enrôlement des électeurs. D'où, à mes yeux, j'ai compris que si jamais la CENI continue à faire semblant de ses problèmes du déficit relatif au décaissement de son budget, elle prêtera davantage des intentions à ses détracteurs qui l'accusent depuis toujours de travailler de connivence avec le pouvoir en vue de reporter les élections au cas où ces dernières n'arrangeraient pas le pouvoir de Kinshasa.
Alors, Jérôme Bonsoir, la CENI voudrait par exemple, voudrait peut-être jouer à la calmie et évoque ici le principe de l'engagement du gouvernement, mais les choses doivent avancer, les acquisitions doivent se faire obtenir. Pensez-vous qu'avec ce principe de l'engagement du gouvernement à être à la hauteur de son engagement, la CENI pourrait avoir à crédit la logistique, par exemple, dont elle a besoin, les avions, parce qu'il faudra des avions pour parcourir tout le pays et amener le matériel, des véhicules, mais aussi du matériel informatique très lourd. On parle, par exemple, pour la machine à voter, d'une centaine de mille de machines. Est-ce que tous ces éléments qui sont indispensables et nécessaires à l'organisation matérielle des élections, la CENI peut l'avoir avec un engagement du gouvernement seulement?
Oui. Cher ami Sébastien de Kananga, je vous remercie pour votre intervention. Nous avons toujours demandé à la CENI d'avoir le courage. Le courage de rendre compte, parce que c'est une institution citoyenne, une institution d'appui à la démocratie, et dans la communication, c'est là où il y a aussi un élément de transparence. Oui, vous dites qu'il y a des insuffisances. Vous savez, l'organisation des élections, partant même de la planification stratégique, tactique, technique des opérations électorales, il y a toujours des insuffisances, il y a toujours des difficultés. Maintenant, c'est la capacité managériale du leadership de la CENI de rectifier, d'introduire les facteurs correctifs pour ramener les choses, pour afin d'atteindre le résultat, afin d'atteindre l'objectif. Parce que aujourd'hui, il y a problème de paiement. Des agents qui traînent. C'est de là où nous avons dit la dotation que le gouvernement, dans la dotation qu'il est en train de mettre à la CENI, cette dotation, on n'a pas dit qu'elle doit être affectée à 100% aux opérations électorales. Mais cette dotation est répartie aussi et devrait être répartie pour faire face au paiement des arriérés des agents qui ont été engagés lors du contentieux électoral. Et c'est pourquoi nous disons, vous m'avez posé la question, quand est-ce qu'on va faire cheminer le matériel, ainsi de suite. C'est la question de la logistique. Le plan qui nous a été donné, le plan de déploiement de matériel qui nous a été donné par la CENI, que les matériels vont passer par Kinshasa, Matadi, par Lubumbashi, par Beni, ainsi de suite, et que ce plan-là pourrait, dans le délai à temps réel, couvrir l'ensemble de 181 circonscriptions électorales et 181 circonscriptions électorales pour la députation nationale et 201 circonscriptions électorales pour la députation provinciale. Et c'est, on devait les couvrir. Mais aujourd'hui, la crainte serait, en tant que quand on est devant le planificateur, si la CENI travaillait déjà sur mode d'urgence, sur un plan critique, à ce moment-là, on comprendrait qu'il y a déjà des signaux, il y a déjà des signaux qui alertent pour que faux départ, on risquerait de bloquer la machine et que la date du 23 décembre risquerait de ne pas être tenue. Et c'est pourquoi nous disons à l'heure qu'il est le paiement de l'argent, ainsi de suite, à nous, population, à nos citoyens, faisons pression sur le gouvernement de la République pour qu'il respecte, qu'il accélère le décaissement de fonds compte tenu l'engagement contenu dans le deal entre gouvernement et la CENI pour que le reste du temps nous puissions arriver au résultat. Mais on dirait que la CENI va se trouver confrontée ainsi de suite. Nous pensons que le langage que la CENI doit prendre, ça doit être un langage responsable de rassurer les uns et les autres, de recréer la confiance et dans le processus électoral et dans le parti ou dans le chef de parti prenant au processus électoral. À ce moment-là, nous pouvons dire tous à l'unisson, façon pour les élections le 23 décembre et nous n'allons pas travailler pour qu'il y ait encore un glissement, que les élections puissent avoir lieu encore après le 23 décembre, merci. Comme selon pensent certaines parties prenantes pour ces électorats. Ce qui serait déplorable et dommage pour le peuple congolais.
Merci Jérôme Bonso. Professeur Jeff Mudimbi, vous allez à votre tour prendre la parole, mais après avoir écouté ce commentaire de Kevin.
Ikoka, j'appelle à partir de Kinshasa. Je crois que cette situation place la CENI et surtout le gouvernement devant leurs responsabilités, car ce rapport est en contraste avec les déclarations souverainistes du gouvernement congolais officialisées par les chefs de l'État lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU. Et toute la communauté internationale est au courant de la volonté congolaise de tout financer son processus électoral. Et en cas d'échec, nous tirerons toutes les conséquences qui en découleront. Quant à la CENI, elle doit porter sa casquette d'impartialité, ne serait-ce qu'une seule fois, en évitant d'accepter l'existence d'un financement fictif. Si tel est vraiment le cas, elle jouerait le jeu du gouvernement et picochait celui de la majorité présidentielle.
Professeur Jeff Mudimbi, cet auditeur appelle toutes les parties à prendre les responsabilités.
Oui, c'est un appel pathétique d'un compatriote qui tente aussi de rejoindre les propos que j'ai tout soutenu tout à l'heure là. Mais je pense que ici, le jeu doit être bien mené par la CENI. Parce que la CENI déclare haut et fort et elle a reçu le nécessaire de la part du gouvernement pour l'organisation des élections. Mais, de toute évidence, et je peux me permettre de dire que c'est vraiment avoir les yeux, sans tâcher jamais les ouvrir, que d'affirmer ou d'accepter que les propos de la CENI sont de nature à montrer son impartialité vis-à-vis du gouvernement congolais. Et pour encore renforcer davantage les propos que j'ai tenus, en dehors du fait que le fait CENI, parce qu'il y a des éléments extérieurs à partir desquels nous pouvons être rassurés que réellement la CENI, elle a tous les moyens possibles, et particulièrement les moyens financiers pour organiser correctement les élections. Si, comme je l'ai dit dans ma première intervention, que jusque-là, il y a le dossier de traitement de contentieux dans les centres d'inscription qui n'est pas encore réglé sur le plan financier, mais on se rendra aussi compte que depuis les opérations d'enrôlement, il y a par exemple, il y a les contrôleurs techniques provinciaux qui accusent jusqu'à nos jours 3 mois d'impaiement. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion ? Ou soit il y a un problème sérieux de gouvernance au niveau de la CENI, ou la CENI est en train de jouer au petit malin, c'est-à-dire à une sorte de saupoudrage. On pense qu'on a déjà réuni tous les moyens, mais par contre, alors qu'en réalité, on ne les a pas réunis. C'est pourquoi j'insiste encore une fois de plus que si la CENI peut penser que elle peut manipuler le peuple congolais, l'opinion congolaise, mais si au cas où elle n'est pas dans la vérité, le temps finira toujours par la rattraper. Si réellement on aime ce pays, on doit marcher dans le sens de promouvoir les bonnes élections, des élections transparentes, des élections qui feront que après leur organisation ne soit pas égale avant leur organisation. Donc comme pour dire que des élections capables de promouvoir la paix, l'harmonie, la calmie, la meilleure intégration de la population dans la communauté nationale. Voilà des souhaits de plus d'un Congolais par rapport à l'organisation des élections par la CENI.
Merci. Analyste des questions électorales, Alain Lomanja, pour vous, cette analyse de Kabambare.
Fumbi Kamulete Sengo, depuis Salamabila, territoire de Kabambare, dans la province du Maniema. L'Observatoire des dépenses publiques est un regroupement d'ONG, tandis que la CENI est une institution publique de l'État ayant une mission bien déterminée et connue par tous les Congolais, celle de conduire le processus électoral jusqu'à la fin. Or, dans sa mission, elle a déjà publié un calendrier consensuel dans lequel les élections vont se dérouler le 23 décembre prochain, tout en rassurant qu'avoir déjà reçu la totalité du montant alloué au processus électoral. Alors, je me demande, qui devait se plaindre sur la question du retard des financements des processus électoraux? À mon humble avis, c'est la CENI qui devait toujours tenir la population congolaise en témoin en cas du retard du financement, car le non-respect du calendrier déjà publié n'engage que la CENI. Que l'ODEP ait des réserves pour ne plus troubler l'esprit de la population congolaise qui n'attend que les élections du 23 décembre prochain.
Alain Lumanja, voilà un compatriote qui défend la CENI.
Oui, je comprends parfaitement ton point de vue et c'est tout à fait logique qu'on puisse réfléchir ainsi en se disant que le rôle de la CENI, c'est d'organiser les élections et quand elle affirme qu'elle a tous les moyens nécessaires, on ne peut que la croire et dire qu'on croise les bras. Sauf que cette CENI-là nous a déjà habitués à plusieurs revirements et donc nous sommes en droit de nous poser des questions sur la transparence de sa gestion dans la préparation des élections. Je voudrais quand même poser une question oratoire que je voudrais adresser à cet auditeur. Comment peut-il comprendre qu'une mission aussi importante que celle de ce soit boudée par les membres de la CENI et qu'ils ne veuillent pas y prendre part pour donner au peuple congolais les informations nécessaires dont il a besoin? Comment peut-il comprendre cela? Ça veut dire qu'il y a quelque chose et ce silence est symptomatique. Et si vous permettez, je voudrais prendre un autre exemple pour illustrer mon propos. Dans son budget de 2017, la CENI dit qu'elle va acheter les urnes au prix de 4,87 $. Et elle prévoit pour cela, pour les urnes, 1 420 000 $ américains. Quand vous faites le calcul du prix de l'urne, de l'unité de l'urne, vous divisez par le 1 420 000 $, ça vous donne à peu près 290 000 urnes que la CENI prévoit d'acheter pour les élections du 23 décembre. Or, nous savons que les bureaux de vote sont plus ou moins au nombre de 80 000. Et on achètera donc 290 000 urnes pour 80 000 bureaux de vote. C'est-à-dire qu'on aura combien d'urnes, et vous voyez, même s'il s'agit de 3 scrutins, mais on risque de dépasser le nombre d'urnes requis dans chaque bureau. Donc il y a comme ça des dépenses, il y a d'autres dépenses qui n'ont pas été évoquées par les amis qui ont commencé à prendre la parole. Par exemple, les képis de la CENI. Les déjeuners, les pailles. Et vous voyez des centaines de milliers de dollars qui passent dans des dépenses plus ou moins de communication comme ça, mais qui ne sont pas des dépenses opérationnelles importantes.
Merci Alain Lumanja. Nous sommes en train de terminer cette émission. Juste très rapidement, en guise de conclusion, à ce stade où nous sommes avec tous ces questionnements sur le financement des élections, est-ce que ces élections de décembre sont en danger?
Je ne dirais pas qu'elles sont en danger. Je peux juste dire qu'on a besoin de voir la CENI à l'œuvre et de compter sur sa transparence au lieu de nous endormir avec des déclarations. Est-ce qu'ils ont l'argent qu'ils organisent les élections? Mais s'ils n'ont pas l'argent, ils n'auront pas d'excuses devant le peuple congolais parce qu'ils ont refusé tout à l'extérieur disant qu'ils avaient l'argent.
Merci. Professeur Geoff Mudimbi, en quelques secondes, ces élections de décembre sont-elles en danger ou pas?
Oui, si nous tablons sur la démagogie, je peux me permettre d'affirmer sans embâge que ces élections sont en danger.
Merci, professeur.
Mais la gestion des...
Merci, professeur. Jérôme Bonsoir, en danger ou pas ces élections de décembre?
Si nous tenons compte de l'engagement du gouvernement et de la CENI, qui sont tous engagés à ce que les élections aient lieu en date du 23 décembre, les élections ne sont pas en danger.
Merci à vous tous. Mimi Kindou était à la technique, Guy Maté à la réalisation, supervision signée Pelé Kipela Mondo Donat Madimba. C'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.